Bonjour à tous. J'espère qu'il n'y aura pas personne qui va s'endormir durant mon message. Ce matin, nous allons regarder un passage dans le Nouveau Testament. C'est un passage dans Marc 5. Ça va être les versets 21. Les versets 21. À 43, ça nous parle ici de la résurrection de la fille de Jairus et guérison d'une femme malade depuis 12 ans. Fait que, je vais lire le passage, après ça, je vais prier. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Ils étaient au bord de la mer. Alors vint l'un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Il lui adressa cette instance prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle avait éprouvé aucun soulagement, même était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même une force qui était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, dit, « Qui a touché mes vêtements? » Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? » Et il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage la maître. » Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, mais crois seulement. » Et il ne permit à personne d'accompagner si ce n'est Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et qui poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit? Pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas mort, mais elle dort. » Il se moquait de lui. Alors, en ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Il entra où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, « Talita kumi, c'est-à-dire ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Ils furent dans un grand étonnement. Jésus lui adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose et dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Fait qu'on va prier. Seigneur notre Dieu, merci pour la lecture de ta parole. Merci pour ces instants que tu mets devant nous. Puisses-tu, Seigneur notre Dieu, qu'on soit à l'écoute. Je te prie de me diriger aussi par ton Esprit Saint dans ce message. J'ai besoin de ton aide. Et merci de ce privilège que tu es là. Et on te remet ces instants entre les mains, Seigneur notre Dieu. C'est ton nom précieux du Seigneur Jésus qu'on t'en prie. Amen. J'ai regardé ce passage, c'est parce qu'on a lu dans les derniers temps, dans les études, ce passage-là, il est venu plusieurs reprises. Ça fait que je me suis mis à méditer là-dessus, puis j'ai dit, j'avais à cœur d'emmener un message ici. Ça nous parle dans ce message-là. Premièrement, de la prière. Puis on voit deux guérisons, même une guérison miraculeuse, puis une autre guérison, mais ce n'est pas une guérison, c'est une jeune fille qui est ressuscitée. On va commencer au début dans Marc 5, le verset 21. On voit ici que, je vais lire le verset, Jésus, dans la barque, regarda l'autre côté de la rive où une grande foule s'assembla près de lui et était au bord de la mer. On voit ici que le Seigneur y arrivait, puis il y avait une foule qui était auprès de lui au bord de la mer, qui attendait le Seigneur. Le Seigneur attirait beaucoup les foules à cause des miracles qu'il faisait, puis c'était si aujourd'hui, s'il y avait une personne qui ferait des miracles de même, les foules seraient épouvantables. Mais dans ce temps-là, c'était le Seigneur Jésus-Christ qui faisait ces miracles-là parce qu'il était Dieu. Dieu tant qu'homme, il manifestait sa gloire et sa puissance. Puis ici, on voit qu'un chef de la synagogue nommé Jairus, qui l'a vu. Au verset 22, il l'aperçut et se jeta à ses pieds. On voit la réaction de cet homme. Il l'a vu, il l'a aperçu, puis il se jeta à ses pieds. Pourquoi il se jeta à ses pieds? Parce que il y avait quelque chose, il y avait une prière. Il voulait demander sa fille, comme on a lu, sa fille était très malade, même presque à la mort. Fait que lui avait entendu parler du Seigneur, puis il savait qu'il pouvait la guérir. Fait qu'il est allé vers le Seigneur. Chef de la synagogue, c'est quoi que c'était, son travail? Il était officier laïque, responsable de l'administration matérielle et des réunions du culte. Dans ce passage-là, on peut voir aussi, j'aimerais lire dans Marc 5, ça nous parle de la synagogue. Attends un petit peu. Pas Marc 5, c'est Marc... Je vais m'aider mes versets, ça ne sera pas. C'est les Marc 1, les versets 21 à 28 que je vais lire. Ils se rendirent à Capharnaüm, et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, il enseignait comme ayant autorité, non pas comme les scribes. Il se trouvait dans leur synagogue, un homme qui avait un esprit impur qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en agitant avec violence et poussant de grands cris. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns les autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine, une commande d'autorité, même aux esprits impurs, ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux qui environnaient la Galilée. Sa renommée se répandait. On voyait que le Seigneur Jésus-Christ attirait des foules. Puis ici, Jairus est allé se présenter devant le Seigneur. Puis le verset. Il a fait une instance, je vais lire le verset 23, il lui adressa cette instance prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. On voit que pour lui, c'est très important parce que sa fille est sur le point de la mort puis s'adresse au Seigneur pour qu'il vienne lui imposer les mains afin qu'elle vive. Ici, quand on parle que se jeta à ses pieds, pour nous, en tant que croyants, notre position en face du Seigneur, bien souvent, c'est au pied du Seigneur qu'il faut être. Comme on peut voir Marthe et Marie, Marie était au pied du Seigneur, puis elle écoutait ce que le Seigneur avait à dire. On voit que le Seigneur, ici, il répond à la prière de Jairus, parce qu'il se lève, puis il s'en va avec Jairus pour aller voir la jeune fille. ici, dans le, ça nous parle « Impose-lui les mains ». Il y a plusieurs passages dans la parole de Dieu où le Seigneur Jésus imposait les mains. Il posait les mains, puis les personnes étaient guéries. Ici, attirer l'attention un petit peu là-dessus parce que c'est spécial. Ben, c'est spécial. Je vais lire juste un autre verset dans Marc 6, le verset 5. Marc 6, le verset 5. Il dit, il ne put faire aucun miracle si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. On voit que le Seigneur imposait les mains. Il y a des personnes qui étaient guéries. Puis quand le Seigneur est allé vers, avec Sivarius vers sa fille, on voit qu'il y a une grande foule qui était là puis il le suivait. Il n'était pas tout seul. Il y avait une foule qui le suivait puis le pressait. Puis durant ce temps-là, quand il est allé, mais il y a d'autres histoires qui arrivent. Une femme qui était très malade depuis 12 ans, qui s'approche du Seigneur. On va lire un peu les versets. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait prouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. On voit ici qu'il n'y avait plus de solution pour elle. Les médecins ne pouvaient plus la guérir. Ça fait 12 ans qu'elle est malade, puis il n'y avait plus de solution. Ça fait que là, au verset 27, il y a de quoi de merveilleux. Et elle a entendu parler de Jésus. Quand tu es malade et que tu n'as plus de solution, tu entends parler que le Seigneur Jésus fait des miracles. Ça fait que tu t'en vas vers cette personne-là, le Seigneur. La perte de sang ici qui la faisait souffrir, et je lisais dans les commentaires, il s'agissait peut-être de troubles menstruels chroniques. Son état la rendait impure. J'aimerais lire dans Lévitique 15, et versets 25 à 27. Ça nous parle dans ce cas-là. La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours, hors de ses époques régulières, et dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire, sera impure tout le temps de son flux, comme au temps de son indisposition menstruelle. Tout lit sur lequel qu'elle couchera pendant la durée de ce flux sera comme le lit de son flux menstruel, et tout objet sur auquel elle sera assise sera impur comme lors de son flux menstruel. Quiconque la touchera sera souillé et lavera ses vêtements et se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. On voit ici la position de cette femme-là. Elle ne pouvait pas se présenter en public parce qu'elle était impure. Elle était malheureuse là-dedans. On peut voir pourquoi que la femme s'est manifestée un petit peu sans que personne s'en rende compte. Ici, la femme, elle a fait une prière. Elle a entendu parler du Seigneur. Puis, on va aller au verset 28, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » On voit la foi de cette femme. Cette foi-là est remarquable. On voit la conviction. Si seulement je touche ses vêtements, je serai guéri. Elle a été malade pendant des années, puis les docteurs n'ont pu rien faire, mais elle va vers le Seigneur Jésus-Christ avec foi. Puis elle sait que le Seigneur peut la guérir. Je trouve ça merveilleux ici, cette prière. Si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Elle vint et toucha son vêtement. Elle le fit malgré son impureté, avec le désir d'éviter d'avoir à révéler en public sa maladie. Puis là, elle continuait à dire en elle-même, si elle pouvait seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Elle pourrait alors s'esquiver. Sans que personne s'en aperçoive, puis là, elle serait guérie. Mais ça s'est passé un petit peu différemment. On va voir. Pourquoi que la femme ne s'est pas présentée devant le Seigneur comme Varius, qui a fait une prière au pied du Seigneur? C'est parce que la femme est impure. Elle ne voulait pas se présenter pour. Elle ne voulait pas révéler sa maladie. Lorsqu'elle. Mais là, il se passe de quoi de merveilleux. Lorsque la femme toucha son vêtement du Seigneur, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle qui était malade depuis des années. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Au même instant. Ça n'a pas pris 10 jours, ça n'a pas pris 1 heure. Au même instant, elle a été guérie. On voit ici que la femme avait fait une prière et elle disait, « Mais que je touche aux vêtements du Seigneur, je vais guérir. » La réponse est ici. Au même instant. Il y a de quoi aussi d'un petit peu spécial. Le Seigneur, la guérison se produit sans que le Seigneur ait parlé. Mais souvent, dans les passages, on regarde la parole de Dieu, on voit que le monde va vers le Seigneur, puis c'est le Seigneur qui parle. On a un cas ici comme Pharius. Mais là, elle arrive par en arrière. Mais le Seigneur n'a pas parlé de rien. Mais le Seigneur, il s'est aperçu, il s'est passé de quoi, là? Le Seigneur connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, ou une puissance était sortie de lui. Puis là, il dit aux disciples, c'est qui m'a touché? Il y a du monde, tu sais, il y a quelqu'un qui m'a touché. Les disciples ne comprennent pas ce qui s'est passé. Il y a plein de monde autour de lui, la foule est là, puis elle presse. Fait que là, ils ne comprennent pas la question du Seigneur. C'est qui m'a touché? La foule est là qui presse, qui sont autour du Seigneur. Les disciples ne comprennent pas. C'est tout à fait normal. Parce que... Puis là, le Seigneur regardait autour de lui pour voir celle qui l'avait touché. Plusieurs endroits dans le Nouveau Testament où les malades touchaient aux vêtements du Seigneur étaient guéris. On va lire... Dans Marc 6, le verset 56, un exemple. 56. Marc 6, verset 56. En quelque lieu qu'il y arriva, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Il dit ce passage-là ici parce que je vois qu'il y en a plusieurs qui ont été guéris en touchant aux vêtements du Seigneur. Mais ici, il y a une différence. Le Seigneur fait ressortir la différence. Le Seigneur seul peut distinguer le touché par la foi. Il est sorti une puissance de lui quand la femme a touché son vêtement. Le Seigneur il a distingué, ce n'était pas comme les autres miracles, c'était produit par la foi. Puis là, ben, la femme, quand ça s'est passé, il y a une question que le Seigneur y fait refaire. Là, on voit au verset 33, « La femme effrayée et tremblante, sachant que ce qui s'était passé, elle vint se jeter à ses pieds en lui disant toute la vérité. » Quand le Seigneur a posé la question, « Qui m'a touché? » Les disciples ne le savaient pas. La foule qui était là, mais la femme, elle savait. C'était elle qui l'avait touché. Fait qu'elle savait ce qui s'était passé. La femme seule comprit la question du Seigneur. La femme effrayée et tremblante, avec humilité, courage et reconnaissance, vint se jeter aux pieds du Seigneur. Varius, tantôt, s'est jeté aux pieds du Seigneur. On voit la femme maintenant qui se jette aux pieds du Seigneur. Deux prières différentes. Mais ils sont au pied du Seigneur toutes les deux. La femme, elle ne voulait pas, parce qu'elle ne voulait pas se faire connaître à cause de sa maladie, mais le Seigneur a dit, attends un peu. Bien sûr. Pourquoi qu'il a fait ça? Elle lui dit toute la vérité. La femme rendit son premier témoignage public en faveur du Seigneur Jésus-Christ. Quand on vient au Seigneur Jésus-Christ, c'est quoi qu'on fait? On témoigne le nom autour de nous, qu'on est sauvé, qu'on appartient au Seigneur, puis on rend témoignage. Puis quand on se fait baptiser dans les eaux du baptême, c'est quoi qu'on dit? Que maintenant, on appartient au Seigneur, puis qu'on veut le suivre, marcher avec lui, puis on rend témoignage au travers des hommes que maintenant notre vie est changée. Ici, dans ce passage-là, puis le Seigneur voulait qu'elle rende témoignage. Pourquoi? Pour que Dieu soit glorifié dans son message, dans ce miracle. J'aime beaucoup la réponse du Seigneur ici, le verset 34. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » C'est toute une réponse. « Ta foi t'a sauvée. » Cette femme-là s'est approchée pour être guérie, mais elle croyait au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur lui dit, « Ta foi t'a sauvée. » On voit que va en paix. C'est des paroles de réconfort qu'elle ne pensait pas avoir. Puis quand Seigneur, la femme a touché, le Seigneur a été guéri complètement de son mal, puis maintenant, bien, elle a une nouvelle relation avec le Seigneur. Une relation en tant qu'enfant de Dieu, c'est complètement différent. L'expression « ma fille » ici, dans les commentaires, vérifiez aussi dans la concordance, c'est le seul endroit dans le Nouveau Testament que le Seigneur emploie « ma fille » au début d'une phrase. Le Seigneur a attiré l'attention, ce n'est pas pour rien. Pour montrer maintenant qu'il est un enfant de Dieu et qu'il appartient au Seigneur. C'est dans Jean 1, le verset 12 et 13 qui nous parle que dans ce sens-là aussi, mais j'aimerais aller lire dans Marc 3, le verset 33 et 35. Ça nous parle de relations. C'est la mère et les frères de Jésus. On va lire. Survinrent sa mère et ses frères qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler la foule qui était assise autour de lui. Il lui dit, « Voici, ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Il répondit, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, c'est là mon frère, ma sœur et ma mère. » On voit ici que la relation céleste, spirituelle avec le Seigneur, c'est une relation différente que la relation physique avec ses frères. Ses frères et ses sœurs, mais plus tard, on voit qu'ils ont cru aussi. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Sois guéri de ton mal, cette assurance, cela assura la femme et la guérison fut complète. Et total. Ici, puis là, ben, on veut revenir un petit peu entre-temps. Farius, lui, il était là, la femme malade à l'arrivée, le Seigneur a pris un temps pour lui. Mais là, lui, Farius, il commençait à se poser des questions. Ma fille est malade, il va-t-il arriver à temps? Sa foi a été. Ça a été dur pour sa foi. Verset 35. Comme il parlait encore, survint chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Ce n'est pas des bonnes nouvelles pour Farius. Des messagers qui s'en viennent, c'était ses amis, ses parents de la famille, ils disaient, ta fille est morte, c'est terminé, il n'y a plus rien à faire maintenant. Laisse la maître en paix. Mais on voit le Seigneur ici qui répond. Seigneur, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef, ne crains pas, mais crois seulement. Ne crains pas. Plusieurs fois dans la parole de Dieu que le Seigneur dit, ne crains pas, mais crois. Ici, on voit que le monde qui sont venus, Seigneur, il n'y a pas, rien n'est possible au Seigneur. Il ne peut pas mettre de limite au Seigneur parce que là, la fille était morte. Il n'y a plus rien à faire. Selon l'homme, oui, mais pas selon Dieu. Selon Dieu, il est tout puissant. Il peut faire des miracles. Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains point, crois seulement. Le Seigneur encourage la foi de Pharius ici. Des fois, et ceux qui ont prié, à l'assemblée, on voit notre sœur Ginette qui est malade. On voit que la main qui est là. On se pose des questions. Pourquoi ça arrive? Mais je peux vous dire que le Seigneur est en contrôle. On ne le voit pas tout le temps. Notre frère Steve, tantôt, disait, il y a des hauts et des bas, c'est normal. Mais il faut regarder au Seigneur. Regardez à lui. Cite le Seigneur encourage Pharius. Crois. Ne crains pas, mais crois seulement. Je vais lire un verset aussi dans Jean 11, verset 4. Il parle de la résurrection de Lazare. Jean 11, verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de l'homme soit glorifié en elle. » La maladie n'est point pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Jean 11, verset 40. Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » C'est sûr que Pharius, ici, il ne comprenait pas tout ce qui se passait, mais le Seigneur est en contrôle. Pharius devait garder en lui la foi qu'il avait faite au départ quand il est venu vers le Seigneur. Il avait fait une prière là, puis il avait prier avec foi. Prière faite avec instance de prière. Puis il fallait qu'il garde des regards sur cette prière-là. Puis là, ben, le Seigneur il s'en allait avec Pharius vers sa fille. Puis il n'a permis à personne de venir avec lui, sinon Pierre, Jacques et Jean. Marc, ici, il reconnaît le statut spécial de ses trois disciples. L'Écriture n'explique pas pourquoi que ces trois disciples ont été choisis pour être là. On le voit que les trois disciples sont... On le voit à la transfiguration. Les trois disciples sont là, puis on le voit dans le jardin de Gethsémané. Pourquoi que le Seigneur a donné un statut spécial pour eux autres? Ils étaient témoins. Non, la Bible n'en parle pas. Ici, il arrive au verset 38, ils arrivent à la maison du chef de la synagogue. Jésus vit une grande foule bruyante, des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Ils furent accueillis par ces cris et là, les lamentations caractéristiques des familles orientales en deuil de cette époque-là. Quand il y avait un deuil, c'était ce qui se passait. Le monde il se lamentait, des lamentations avec des cris. Puis même parfois, il engageait des pleureuses professionnelles. Quand il y avait de la mortalité. On ne lirait pas le verset, mais dans Matthieu 9, le verset 23, on en parle. Puis ici, le Seigneur lui parle au verset 39. Et le Seigneur leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit? Pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas mort, mais elle dort. » Quand, des fois, quand on se met à méditer puis réfléchir, tu sais qu'une personne est morte, puis quelqu'un arrive, le Seigneur Jésus-Christ, n'est pas morte, elle dort. Ça amène quoi? Ben, tu vas faire rire de toi, tu vas te faire moquer de toi parce que c'est la réalité, l'enfant est mort. Puis, le Seigneur, il dit, elle n'est pas morte, mais elle dort. Ils se moquèrent de lui avec mépris. Se moquer de lui évoque donc des éclats de rire répétés dans le but d'humilier le Seigneur. Le Seigneur ne s'arrête pas à ça. Mais il fit entrer tout le monde, il fit sortir tout le monde. Verset 40-42. Ici, dans les commentaires que je regardais, il s'agit d'une expulsion exécutée de force et avec emphase sur l'autorité du Seigneur Jésus. Le Seigneur ne voulait pas que les personnes qui se moquaient de lui, sur les paroles qu'il venait de dire, les incrédules, il n'y avait pas d'affaire là. C'est seulement ceux-là qui croyaient qu'il était là. Les trois disciples étaient témoins. Encore là, les trois sont avec les parents qui rentrent dans la maison. Il saisit la fille par la main, lui dit en araméen, « Talita kumi ». C'est comme un ordre, c'est un ordre. Marc traduit ses paroles de façon suivante. « Jeune fille, lève-toi, en ajoutant, je te le dis. » Pour souligner l'autorité du Seigneur Jésus sur la mort. C'est quand le Seigneur, quand Lazare est mort, le Seigneur a dit quoi? Lazare sort. Il était mort depuis 4 jours. Le Seigneur l'a ressuscité. Aussitôt, la jeune fille se leva et marcha. Tantôt, on a vu quand la femme malade qui s'est allée en arrière pour toucher aux vêtements du Seigneur, c'est quoi qui s'est passé? Aussitôt. Quand le Seigneur guérit une personne, c'est tout de suite. Puis ici, c'est plus que ça. Il ressuscite une personne. Aussitôt, sur l'ordre, Seigneur. La fille s'est levée. Puis je vais attirer l'attention parce que le Philippe 12 revient 2 fois ici. La femme malade, ça faisait 12 ans qu'elle était malade. Puis la fille qui a été ressuscitée, elle n'est pas nommée, elle avait 12 ans. Ça fait quand tu regardes ça, ça veut dire que quand la fille est née, la femme était malade. Elle avait 12 ans. C'est pour montrer comment que cette femme-là a souffert pendant 12 ans. Ici, au verset 43, le Seigneur fit 2 recommandations. Que personne ne sache la chose. Le Seigneur Jésus ne voulait pas que ce miracle attire les gens pour des fausses raisons. Parce que là, à un moment donné, les foules suivaient le Seigneur. Pourquoi? Pour voir des miracles. Mais c'était devenu un peu comme un spectacle. Tu sais, quand tu vois des guérisons miraculeuses, ça devient... C'est sûr qu'il y en a qui croyaient là-dedans, mais il y a du monde autour qui vont là pour voir ce qui se passe. Ça attire les foules. Le Seigneur, il ne voulait pas que ça soit mentionné. Mais quand tu regardes dans les autres évangiles, dans Luc, on voit que la nouvelle n'a pas resté là longtemps. Suite après, ils ont commencé à annoncer que la fille était ressuscitée. Puis la deuxième recommandation qu'on donne à manger la jeune fille, manifeste sa compassion. Confirma aussi qu'elle était rétablie et en bonne santé. Son corps avait besoin de nourriture. Pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a besoin de nourriture aussi. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans ce passage, il y a 2 prières qui sont faites. 2 personnes. Jairus, un chef de la synagogue. Puis l'autre, ben, c'est une femme malade, atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Il y a une prière faite dans le secret. La femme malade a fait une prière dans le secret. Si je peux m'approcher du Seigneur, je vais guérir. Personne n'est au courant. Elle est au courant. Le Seigneur répond la prière. La prière de Jairus était faite en public et se termine où? En privé. Avec les enfants, avec les parents, les trois témoins, les disciples qui étaient là. La prière de la femme malade s'est faite dans le secret. Elle se termine où? En public. Spécial pareil quand tu regardes ça. Deux prières différentes. Le Seigneur écoute les prières. Dans Matthieu 6:6, quand le Seigneur dit « Rentre dans ta chambre puis prie, le Père te rendra dans ta prière. » On voit ici. Une qui se termine, une faite dans le secret, se termine en public. Celle-là qui est faite en public se termine dans le privé. Conclusion. Qu'est-ce qu'on peut retirer de ce passage? Premièrement, le Seigneur écoute nos prières. Deux prières qui ont été faites, le Seigneur est à l'écoute et répond. Toujours selon sa volonté. Quand on prie, le Seigneur est à l'œuvre. Il répond. Mais des fois, on ne comprend pas toujours que ce qui se passe. On dirait, pour moi, le Seigneur n'a pas entendu ma prière. Il ne se passe rien. Je l'ai mis au pied du Seigneur. Puis c'est quoi qui se passe? Le Seigneur est à l'œuvre. On ne le voit pas toujours, mais il faut croire. Croire qu'on a prié. Il faut demander des choses selon la volonté de Dieu aussi. Je vais lire dans 1 Jean 5, les versets 14-15. Jean 5, versets 14 et 15, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute, selon sa volonté. Si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous la possédons, la chose que nous lui avons demandée. Toujours prier selon sa volonté. On voit dans l'épître de Jacques qu'il y a des prières qui sont faites, mais ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Jacques dit c'est parce qu'on prie mal, on prie pour des choses qui ne sont pas essentielles. Mais quand on prie selon la volonté de Dieu, le Seigneur répond. Le Seigneur peut répondre à une prière oui, non, il peut dire attends. Il peut nous dire attends. Attends parce que tu ne comprends pas, mais attends. Je vais essayer d'aller refaire un verset là. Par rapport à la prière. OK. Jean 13, verset 7, qui a répondu à Pierre ici. Jésus lui répondit, « Ce que je fais maintenant, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Bon, je priais pour ça, une chose, puis je revenais toujours sur ma prière. À un moment donné, le Seigneur, j'ai arrivé sur ce verset-là. Le Seigneur m'a montré ce verset-là. Là, les yeux m'ont allumé. Ah, OK. Le Seigneur est en contrôle. Ça veut dire que tu as répondu à ma prière, mais sois patient. Il faut être patient. Marc, j'aimerais lire un autre verset aussi. Marc 11, verset 24. C'est pourquoi je vous l'ai dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant. Ça nous parle de la prière. Puis quand je regardais ces versets-là, il y a d'autres choses qu'on peut regarder aussi. Dans ce passage, on peut voir deux choses qui ressortent encore. On peut voir la nouvelle naissance. Cette femme qui est venue au Seigneur, ça nous parle de la nouvelle naissance. Dans le verset 33, « Ta foi t'a sauvé et va en paix. » La fille de Phérius est ressuscitée. Est-ce qu'elle était sauvée? La parole de Dieu n'en parle pas. Mais pour nous, quand on regarde, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de la résurrection. On est les enfants de Dieu. En même temps, on est ressuscité avec le Seigneur. On a la vie éternelle. Et c'est ça qu'on a. On est choyé. Nous avons la vie éternelle avec lui. Et notre espérance est éternelle. C'est merveilleux d'avoir cette espérance-là. Un jour, on va être auprès du Seigneur pour l'éternité. Et j'aimerais lire, terminer par deux versets, Éphésiens 2, le verset 5 et 6. Éphésiens 2, le verset 5 et 6. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ, et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est là notre position, dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Notre cité n'est pas terrestre, elle est céleste. Fait que c'est ça que je voulais vous partager dans ce passage. Fait que, j'espère que je n'ai pas été trop ennuyant. Fait que, on va prier. Seigneur notre Dieu, merci de ce temps béni, de ce privilège qu'on a, de pouvoir ouvrir ta sainte parole et la méditer. C'est une nourriture spirituelle en tant que croyant qu'on a besoin. Et tu as pour vous, pour nous en abondance, parce que ta parole est inépuisable. Il y a toujours de quoi de nouveau pour nous. Et on t'en remercie, Seigneur notre Dieu, de cette nourriture céleste, spirituelle, qu'on a besoin au travers de ce monde. Je te prie, Seigneur, de bénir cette semaine, d'être avec chacun de nous. Et on te prie aussi au travers de nous, Seigneur, aide-nous à témoigner ton nom au travers de ce monde qui ne sont pas sauvés. C'est ton nom précieux du Seigneur Jésus qu'on t'en prie. Amen.